السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، dans la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, on s'est arrêté la fois dernière à la prescription de zakat al-fitr et aussi zakat al-mal. Comme on a expliqué la fois dernière, selon la majorité des historiens, zakat al-fitr et zakat al-mal a été prescrite pendant la deuxième année de l'hégire, à la fin du mois de Ramadan, un ou deux jours avant le mois de Ramadan, un ou deux jours avant la fin du mois de Ramadan, de la deuxième année de l'hégire. Et on revient donc finalement au début du mois de Ramadan de cette année-là. On a déjà expliqué que tout au long de cette seconde année de l'hégire et la fin de la première année de l'hégire, il y a eu plusieurs expéditions. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu pour la première fois un verset l'autorisant lui et ses compagnons à prendre les armes pour défendre les musulmans, alors que ceci était formellement interdit pendant la période mécoise, même pour la défense des musulmans. Les musulmans devaient prendre sur eux malgré les persécutions, les tortures, etc. Et à la suite de la révélation de ce verset, un pacte avait été conclu avec les Bani Juhayna, si vous en rappelez. Les Bani Juhayna, ce sont les Bédouins qui vivent sur toute la plaine entre Médine, à l'ouest de Médine, et jusqu'au nord, ils vivent sur les routes commerciales qui mènent les commerçants de la Mecque jusqu'au Cham, jusqu'en Syrie. Et c'est une route qui est empruntée par les commerciaux et en particulier par les caravanes de Quraysh. Le professeur Salma, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a conclu un pacte de non-agression avec cette tribu, puisque cette tribu ont aussi un pacte de non-agression avec les Quraysh. Ils sont bien obligés d'avoir un pacte de non-agression pour pouvoir faire circuler leur caravane commerciale par là. Le professeur Salma a aussi conclu un pacte avec eux pour qu'il leur impose la neutralité. Et la première expédition que le professeur Salma va envoyer, c'est l'expédition de Sif al-Bahr. L'expédition de Sif al-Bahr. Et dans cette expédition, les musulmans et les Quraysh vont s'interposer, vont se mettre en rang pour combattre, une armée face à l'autre, sauf que un chef des Bani Juhayna, qui a un pacte à la fois avec les Quraysh et à la fois avec les musulmans, il va s'interposer et implorer les musulmans de ne pas livrer bataille. Et les musulmans vont accepter le fait qu'ils s'interposent. Après Sif al-Bahr, on ne va pas revenir sur toutes les expéditions qu'on a déjà toutes vues en détail, mais après Sif al-Bahr, il y aura Al-Kharrar. C'est la bataille où, pour la première fois, une flèche est lancée. Jamais avant ça, dans l'histoire de l'islam, il y a eu un combat. C'est la première fois où il y a des flèches qui seront lancé, et le premier à avoir lancé une flèche, c'est Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, comme on l'avait vu. Donc, Sif al-Bahr, ensuite Al-Kharrar, ensuite, avant Al-Kharrar, Rabir, ensuite Al-Kharrar, ensuite Abwa, qui était aussi surnommé Waddan, ensuite Bouat, ensuite l'Ushayra. L'Ushayra va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, même si on l'a vu en détail dernièrement. Après l'Ushayra, il y a eu Médine qui a été attaquée par Kurz ibn Jabir al-Fihri. Et il a volé du bétail et des montures. Le prophète Hassan va le poursuivre pour essayer de le rattraper jusqu'à Safwan. Safwan avec Sin et non pas Sad. Safwan, et il va ne pas réussir à le rattraper. Et c'est cette bataille aussi qu'on appelle Badrul Oula, la première Badr. Pourquoi ? Parce que Safwan est à quelques kilomètres de l'endroit qui s'appelle Badr. Donc on l'a aussi appelé la première Badr, la première bataille de Badr. Et ensuite, la dernière expédition qu'on avait vue, c'est celle de Sariyat Nakhla, l'expédition de Nakhla, où les musulmans vont pour la première fois faire des deux prisonniers et même tuer deux idolâtres et faire même du butin. Ensuite, on a vu la prescription du changement de direction de prière, et ensuite on a vu la prescription de Ramadan et prescription de Zakat. On revient donc à ce début de Ramadan de la deuxième année de l'Hégire, fin du mois de Sha'ban, début de Ramadan. Ici, la sixième expédition qui avait eu lieu, à la fin, donc deux mois auparavant, à la fin de Rabi'ul Oula et début de Rabi'ul Thaniya, c'était la sixième expédition, c'était celle de l'Ushayra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait envoyé Il n'avait pas envoyé un compagnon à sa place, il est parti lui-même dans cette expédition, comme on l'avait vu. À la tête de 150 à 200 hommes pour essayer d'empêcher le passage d'une caravane commerciale qui était conduite par Abu Sufyan, qui fait partie des notables de la Mecque et qui va bientôt, quelques mois plus tard, 3 à 4 mois plus tard, il va devenir le chef de la Mecque, mais il ne le sait pas encore. Puisqu'après la défaite de Badr, tous les notables et tous les chefs de la Mecque vont périr. Et donc ce sera lui qui prendra la place du doyen et du chef de la Mecque. Abu Sufyan conduit cette caravane pleine des richesses des musulmans qui leur ont été confisquées à la Mecque. Le problème, c'est que le prophète Hassan arrivera trop tard à cet endroit qu'on appelle l'Ushayra. C'est pour ça que cette expédition elle a été nommée l'Ushayra. Il est sorti, il a laissé à sa place son frère de lait, le frère de lait du professeur sallam, Abu Salama ibn Abdel Asad, radiallahu an, c'est lui qui est à la tête de Médine pendant son absence. Mais le professeur sallam ne va pas revenir avec rien. On avait vu que le professeur sallam, même s'il était sorti, qu'il n'a pas réussi à rattraper cette caravane, il va conclure sur le chemin un pacte de non-agression avec la tribu des Bani Mudlij. Vous vous rappelez, on a déjà parlé beaucoup de la tribu des Bani Mudlij. Tribu des Bani Mudlij, c'est par là que le prophète Hassan est passé lorsqu'il a fait la hijra. Il a contourné le chemin connu, il est passé par les Bani Mudlij. Et les Bani Mudlij, comme on avait déjà expliqué à plusieurs reprises, ils sont connus pour de père en fils à faire le travail de pourchasse dans le désert. Ils recherchent les fugitifs, ils ont l'art de reconnaître les pas, les traces, même quand quelqu'un essaye de cacher ses traces. Et donc ils vont... Leur aide va être demandée par les Quraysh et le chef des Bani Mudlij va retrouver la trace du prophète sallam. Il y en a, c'est leur art. Ce sont des experts dans cet art. Il va retrouver la trace du prophète sallam, c'est Suraqa ibn Malik, mais il va cacher, il va s'entendre avec le prophète sallam, on avait raconté cette histoire. Il va non seulement cacher sa conversion et cacher le fait que le prophète sallam soit passé par là. Naam. Ala kulli hal, le prophète sallam, pendant cette expédition, il va conclure un pacte de non-agression avec les Bani Mudlij, Afwan, et il va revenir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré ce qui va se passer après, il va y avoir l'expédition de Nakhla, où il va faire des morts, etc. Donc beaucoup de choses ont changé en deux mois. Et Abu Sufyan, il faut se mettre à la place d'Abu Sufyan qui a pris les richesses, il part, qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui ? À l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas les journaux, il n'y a pas pour s'informer jour après jour de l'actualité qui change. Lui, Abu Sufyan, l'actualité dans le désert qu'il a laissé derrière lui, c'était que les musulmans et les Quraysh, ils essayaient de temps en temps de se faire peur, sans vraiment livrer bataille. Donc rien de dramatique. Il n'est pas au courant qu'il y a eu encore deux autres expéditions, dont celle de Nakhla, où les musulmans ont pour la première fois fait du butin, fait deux prisonniers, et même tué deux personnes. Et qu'en plus qu'il faut être prudent sur la route commerciale du nord, le prophète Hassan s'est même attaqué à la route commerciale du sud, puisque Nakhla, c'est pas loin de Ta'if, au sud de la Mecque, et c'est la route qui mène vers le commerce des Quraysh, vers le Yémen. Donc les Quraysh, leur actualité à ce moment-là, c'est que leurs routes commerciales ne sont plus sûres ni au nord ni au sud. Et que au début, les Quraysh pensaient que le prophète Hassan ne voulait que bluffer, juste leur faire peur, mais qu'ils n'oseraient jamais aller jusqu'à prendre du butin, faire des prisonniers, ou même jusqu'à tuer s'il le faut. Or, on en est là, à ce moment-là, et Abu Sufyan ne le sait pas. Donc Abu Sufyan, ne le sachant pas, il se permet, malgré le peu de soldats qu'il a avec lui, il se permet de faire beaucoup de bénéfices, et de revenir avec une caravane extrêmement chargée en butin et en richesse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas oublié, dans toutes les expéditions qu'il a menées, qu'il y a cette expédition qui lui a échappé, qui était partie vers le nord et donc qui n'est pas encore revenue vers le sud. Donc il envoie deux compagnons en éclaireur, ce qu'on appelle en arabe al-uyoun, les yeux. Pourquoi on les appelle comme ça? Parce que c'est yani les espions, ceux qui vont surveiller, ramener les informations. Et ça, c'est quelque chose de très connu depuis la Jahiliya chez les Arabes. Ils ont cet art-là aussi. Avant de faire la guerre, ils envoient ce qu'on appelle l'uyoun. Et on va le voir tout au long de la vie du prophète Hassan, mais tout au long des guerres et des batailles qu'il va mener, il envoie lui aussi l'uyoun, des yeux. Pourquoi on les appelle comme ça? Parce que ce sont les gens qui vont, qui surveillent, qui regardent ce qui se passe et ils reviennent ramener les informations. Ce qu'on appelle aujourd'hui le mukhabarat, les services secrets. Non. Ça a toujours existé, sauf qu'aujourd'hui, ça a pris une dimension particulière. Ala kulli hal, le prophète Hassan envoie deux compagnons vers le nord pour surveiller est-ce que cette caravane revient ou pas. Et si elle revient, qui est dedans et qu'est-ce qu'elle transporte? Il va envoyer deux compagnons. Ces deux compagnons sont Talha ibn Ubaydillah, radiyallahu anhu, et Saïd ibn Zayd, radiyallahu anhu. Avant d'aller plus loin, quand on parle de compagnons, surtout des compagnons de cette trempe-là, il faut nous intéresser à savoir de qui on parle. Talha ibn Ubaydillah et Saïd ibn Zayd, radiyallahu anhum. Talha ibn Ubaydillah, il fait partie de ce qu'on appelle Al-Asharatul Mubasharun bil Jannah, les 10 promis au paradis. Talha ibn Ubaydillah, radiyallahu anhu, il va se distinguer pendant toute sa vie, mais en particulier, il va se distinguer dans une bataille qu'on n'a pas encore vue. C'est la bataille de Uhud, qui sera conduite par les Quraysh comme une vengeance pour la bataille de Badr. Donc je ne vais pas vous donner tous les détails, puisqu'on va encore voir cette bataille, on va encore voir comment Talha ibn Ubaydillah va être héroïque dans cette bataille. Mais ce qui nous importe là, c'est de faire un résumé de sa biographie à Talha ibn Ubaydillah et de dire qu'il va se distinguer dans la bataille de Uhud et qu'il va défendre corps et âme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il sera pris d'assaut par quelques dizaines d'idolâtres qui vont réussir à le trouver et à le bloquer, l'assiéger, et lui envoyer tout ce qu'ils peuvent, les lances, les flèches, pour essayer d'être sûr de l'éliminer purement et simplement. Talha ibn Ubaydillah n'a plus rien pour défendre, son bouclier est parti, tout est parti. Il essaye de défendre le professeur Sim, mais tout est parti, tout a été cassé. Il lui reste juste quoi? Son corps et son bras, et ses bras. Et donc il s'interpose de son corps et de ses bras, et beaucoup de compagnons vont périr, comme on le verra à la bataille de Uhud, juste parce qu'ils essaieront de s'interposer. Et on a des compagnons qui diront « Nahri duna nahrika ya Rasulallah »« Ma poitrine avant ta poitrine au messager d'Allah » Quand le professeur Hassim se lève pour essayer de voir ce qui se passe, et il baisse respectueusement le professeur Hassim parce qu'il voit toutes les flèches arriver « Ma poitrine avant la tienne au messager d'Allah » Talha ibn Ubaydillah va faire partie des rares survivants de cet événement. À tel point qu'il restera toute sa vie après cet événement avec un bras paralysé. quand il n'aura plus d'épée ni de bouclier, il utilisera son bras pour essayer d'arrêter les coups de lance ou de flèche. Et donc, il a un bras gravement blessé et il ne va jamais retrouver la motricité de son bras. Il sera paralysé à vie de son bras. Mais il survit. Il survit. Et plus d'une douzaine de compagnons vont mourir à cet endroit. À un tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira régulièrement après cet événement-là, « Man sarrahu an yandhura ila shahidin yamshi ala rijlay falyandhur ila Talha ibn Ubaidillah. » Celui qui désire voir un martyr qui marche sur ses pieds, un martyr c'est mort, c'est pas vivant. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam il te dit, si tu veux voir un martyr, comment c'est ? Eh bien regarde Talha. Talha il est vivant. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est un martyr. Et il le dit pour deux raisons en réalité. Il le dit parce que il a combattu, Talha ibn Ubaidillah, il a combattu comme quelqu'un qui n'allait khlas. Il était là, il a donné sa vie. Mais Allah Azza wa Jalla en a décidé autrement. Il a tout fait pour mourir en martyr à ce moment-là, mais Allah en a décidé autrement, donc il est considéré comme un martyr. Il a fait ce qu'un martyr il fait. Il a voulu donner sa vie. Sauf qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas repris sa vie à ce moment-là. Donc il est appelé, d'une certaine manière, il est surnommé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un martyr vivant. Et la deuxième raison, c'est que Talha ibn Ubaidillah, les compagnons ne le savent pas encore, et lui-même ne le sait pas encore, mais il va terminer sa vie en martyr, malgré tout. Et c'est donc pour ces deux raisons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man sarrahu an yandhura ila shahidin yamshi ala rijlay fal yandhur ila Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhu. » Pendant cette bataille de Uhud, quand les compagnons vont revenir, ils vont réussir à faire un bouclier humain autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de pousser le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers la montagne de Uhud, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on lui aura donné deux boucliers pour se défendre. Et les boucliers, c'est lourd. Nous, quand on voit les boucliers ou quoi, on pense que c'est quelque chose comme ça. Alors, c'est quelque chose de très lourd. Ça pèse beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris deux boucliers. On lui a donné deux boucliers pour qu'il se protège. Et donc, quand il va essayer de monter sur Sakhra, sur le rocher de la montagne d'Uhud, il va avoir du mal avec le bouclier. Qu'est-ce qu'il va faire ? Talha ibn Ubaidillah, qui vient de survivre à un événement dramatique et qui a des flèches sur son bras, sur son corps. Il saigne de partout. Il prend un des deux boucliers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le met sur son dos et il s'abaisse et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, monte sur moi pour l'aider à monter sur le rocher. Quelqu'un dans sa situation, il doit normalement juste crier « À l'aide, au secours, aidez-moi » La seule chose qu'il a en tête, c'est aider le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, peu importe ses blessures, peu importe qu'il vive ou non. C'est vous dire l'amour que les compagnons éprouvaient pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va monter sur ce bouclier, il va réussir à monter sur le grand rocher et il va dire « أوجب طلحة يعني وجبت له الجنة. C'est dû pour Talha. C'est obligé pour Talha. Pour Talha, c'est obligé. Qu'est-ce qui est obligé pour lui ? Le paradis. Khalas, il est en train de mourir. Et lui, la seule chose à laquelle il pense, c'est d'aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam à monter sur ce rocher, sur son corps. Donc c'est obligatoire, il a obligatoirement mérité le paradis. D'ailleurs, dans Surat Al-Ahzab, il y a un verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadu Allah alayh, fa minhum man qada nahbahu, wa minhum man yantadir, wa ma baddalu tabdila. » Il est parmi les croyants des hommes. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Parmi eux, parmi ces gens-là, ceux qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah, il y a ceux qui ont terminé, qui ont atteint leur fin. Ils ont fait un engagement et ils ont terminé. Khlas, ils ont rempli leur engagement envers Allah. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ Et il y en a d'autres qui attendent. Ça veut dire quoi ceux qui ont atteint leur engagement ? Ça veut dire, khlas, il a juré qu'il mourrait par exemple pour Allah et il est mort. C'est fini. Il a atteint son engagement. Pourtant, les compagnons se posaient la question, qui sont ? On aimerait savoir qui sont ces gens qui ont atteint leur engagement. C'est fini. Mais les compagnons, tellement ils respectaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient du mal quand ils devaient poser les questions, etc. Ils essayaient de choisir le bon moment par respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils essayaient de ne pas être trop insistants dans leurs questions, toujours à poser des questions. Non, pas comme on a nous aujourd'hui, les gens, quand ils posent des questions qui n'ont ni queue ni tête. Ouais. Et à n'importe quel moment, Al-Muhim, toi, tu dois juste être là pour répondre aux questions. Peu importe. Que la question soit utile ou pas, qu'elle soit, que ce soit la bonne occasion de la poser ou pas, peu importe. Non. Donc les compagnons, ils voulaient demander, mais ils ne savaient pas comment demander. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi un bédouin. Il y en a les bédouins, à l'époque, comme on raconte une fois, il y a un bédouin qui est venu pour poser une question au professeur Hassan, mais il l'a tiré par son col. Viens, il l'a tiré. À un tel point qu'il lui a laissé une trace rouge au cou. Le professeur Hassan lui a répondu, même si les compagnons ont voulu s'énerver contre lui, il les a calmés, laissez-le. Il y en a, c'est sa façon de faire. C'est pas parce qu'il a voulu être mauvais. Il y en a, ils te font ça, c'est vraiment parce qu'il te veut du mal. Mais lui, c'est comme ça. C'est son code. Il sait pas. Et le professeur Hassan s'adaptait à chaque personne en fonction de ses mœurs et de ses codes. Et il a répondu à sa question. Non. Ou comme le bédouin, cette histoire qu'on a déjà maintes fois racontée, mais qui illustre bien comment étaient les bédouins à l'époque et qui illustre bien comment le professeur Hassan éduquait ses compagnons malgré cette dureté, cette bizarrerie des bédouins. Le bédouin qui est entré alors que le professeur Hassan était avec ses compagnons dans la mosquée. Comme s'il cherchait quelque chose, et finalement il va dans un coin, il se met à uriner. Et les compagnons, évidemment, on est là, on est entre nous là. Imaginez quelqu'un qui fait ça. Et il vient ici, ou là, je ne sais où, et il commence à faire ça. Pas juste vous, moi le premier. Je vais balancer le micro, non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des toilettes juste là-bas, qu'est-ce que tu veux bien faire ici? Inacceptable, inadmissible. Le professeur Salem leur a dit. Ne l'interrompez pas, laissez-le finir. Pourquoi? Maintenant qu'il a commencé, qu'est-ce que tu veux faire? Si nous avait demandé, on lui aurait dit non, pas ici. Maintenant qu'il a commencé, que ce soit un peu ou beaucoup qu'il fasse, alors khlas. Laisse-le terminer, Lana. Si tu l'interromps maintenant, personne ne voudrait être interrompu à ce moment-là. S'il y a une chose qui n'est pas supportable pour n'importe quel être humain, c'est qu'on le coupe à ce moment-là. Donc laisse-le terminer. Laissez-le terminer. Et quand il a terminé, il dit aux compagnons, allez chercher de l'eau et nettoyer. Les compagnons, allez chercher de l'eau et nettoyer. Pas lui, vous, qui vouliez être méchant avec lui, allez chercher l'eau et nettoyer. Et ensuite, il a parlé calmement avec le bédouin en lui expliquant, les endroits comme ici ne sont pas faits pour ces choses-là. Ils sont faits pour le rappel d'Allah, pour la prière. Et le bédouin a bien vu ce qui s'était passé pendant qu'il a uriné. Il a bien vu qu'il y a des gens qui l'ont regardé bizarrement et qui voulaient même tirer l'épée pour le décapiter. Et il a vu parmi eux que le prophète Mohammed sallam, lui, a été sage. Et il leur a même imposé à eux d'aller nettoyer l'eau, d'aller nettoyer la souillure. Et donc, juste après ça, il va faire une invocation dans la prière où il va dire. اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم احدا سوانا يا الله fais moi miséricorde à moi et fais miséricorde à محمد صلى الله عليه وسلم et ne fais miséricorde à personne d'autre que nous deux. Et le professeur Hassan, toujours dans sa avec sa sagesse légendaire, il va lui dire, tu as rendu exigu quelque chose qui est vaste. La clémence d'Allah, c'est vaste, elle peut tout englober, elle peut englober tout l'univers et plus. Et toi, tu as voulu la rendre exiguë juste pour toi et moi. Non, c'est pour tout le monde, la clémence d'Allah. Non. Ala kulli hal, les compagnons ont demandé, pour revenir à Talha ibn Ubaydillah et le verset dans sourate l'Ahzab, ils ont dit, c'est qui man qada nahbahu? Qui font partie de man qada nahbahu? Donc ils ont dit à un bédouin, Allah il dit, faminhum man qada nahbahu. Certains parmi eux ont atteint leur fin. Ils ont atteint leur destination, ils ont rempli leur engagement. C'est qui? On aimerait bien savoir. Et le professeur Hassem va lui répondre. À ce moment-là, il y a Talha ibn Ubaydillah qui entre dans la mosquée et il va dire Hadha mimman qada nahbahu. Talha ibn Ubaydillah, alors qu'il est vivant. Il fait partie de ceux qui sont concernés par ce verset. Ils ont atteint leur fin. Ils ont rempli en engagement devant Allah et ils ont été jusqu'au bout. Pourtant, il est toujours vivant. Mais il l'a rempli, lui. C'est fini. Il a gagné, yani. Il a eu le succès. Et ici aussi, on voit la sincérité des compagnons. Talha ibn Ubaidillah, non seulement il fait partie des 10 premiers au paradis. Le prophète Hassan, il lui a dit, il l'a entendu, toi, tu as le paradis, c'est sûr et certain. Et il a entendu à plusieurs reprises, celui qui veut voir un martyr marcher sur terre, regardez Talha ibn Ubaidillah. Lui, il entend Talha, ces choses-là sur lui. Il entend aussi, Anta mimman qada nahbahu. Tu fais partie de ceux qui ont atteint, qui ont rempli leur engagement avec Allah. Tu as gagné. Il dit, Aoujaba Talha, le paradis est obligatoire pour toi. Et pourtant, ce n'est pas des gens, tous ses compagnons, qui disent, bon, bah, c'est bon alors, je peux faire la fête maintenant. Et continuer à adorer Allah Azzawajal. Avec encore plus de ferveur et encore plus de sincérité. Pourquoi ? Parce que c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même, il est prophète et il disait, malgré tout, et il multipliait les actes d'adoration, Afala akunu abdan shakura. Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ? Ainsi étaient les compagnons. Nous, si on n'avait pas la certitude, mais juste la moitié de la certitude que ça va à peu près, pour l'au-delà, bon, on va aller voir ce qui se passe du côté de la rue Solferino à Lille, alors. À chaque fois, on m'a dit qu'il ne fallait pas passer par là la nuit. Bah, cette fois, je vais y aller, tiens. Non. Ala kulli hal. Talha ibn Ubaidillah, radiyallahu anhu, ce compagnon qui a été envoyé en éclaireur par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour ramener des informations sur l'éventuel retour de la caravane d'Abu Sufyan, Talha ibn Ubaidillah va mourir en martyr. Avant ça, la cause de sa conversion. Talha ibn Ubaidillah, il va être dans un voyage. Au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va recevoir la révélation, il va être en voyage. Il va rencontrer dans une ville de Cham qui s'appelle Bousra, il va rencontrer un moine qui va lui dire, il est dans un groupe de commerçants, et ce moine vient, il dit, est-ce que parmi vous il y a des gens qui viennent du côté du désert des Arabes? Et donc le groupe de Talha ibn Ubaidillah, ils vont dire nous. Il va s'adresser à Talha ibn Ubaidillah, ce moine, en lui disant « Akharaja Ahmad ». Est-ce que Ahmad est apparu ? Est-ce qu'il est arrivé ? Ahmad ? C'est qui Ahmad ? Il va dire « Ahmad, c'est le dernier prophète que nous attendons, qui nous a été promis dans nos livres. Et nous savons, tous les signes montrent que nous sommes dans la période où il doit apparaître. Et les signes disent également qu'il doit apparaître de votre côté. » Alors je viens aux informations, est-ce qu'il est apparu ? Talha ibn Ubaidillah, il va dire, moi j'ai jamais entendu parler de ça. Il n'y a rien chez nous qui dit ça. Et à son retour du voyage, Talha ibn Ubaidillah, c'est le cousin de Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Ils ont le même grand-père. Ils ont le même grand-père. Et donc, il revient. Et Abu Bakr Siddiq, qui vient à peine de se convertir à l'islam, l'informe. Et il lui fait da'wa, il lui dit, il faut te convertir. Et là, il se rappelle de ce que le moine lui a dit. Akharaja Ahmad, Muhammad. Et donc il dit, c'est lui. Et il va se convertir à l'islam devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais certaines versions disent qu'il est le 9e à s'être converti à l'islam. Donc il s'est converti à l'islam très tôt. Talha ibn Ubaidillah, radiyallahu anhu, va se marier avec la fille d'Abu Bakr, Umm Kulthum, bint Abi Bakr, radiyallahu anhum, ajma'in. Et après la mort du prophète, Talha ibn Ubaidillah, un jour il va recevoir des richesses. On va lui envoyer des richesses du Yémen. Et beaucoup de richesses. On lui envoie beaucoup de richesses. Et il va se mettre... Ce jour-là, il va recevoir la richesse, les richesses, il va les mettre de côté, et son comportement va changer, à un tel point que il ne dormira pas de la nuit. Il passera toute la nuit à pleurer. Et sa femme, la fille d'Abu Bakr, radiyallahu anhu, va dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Il passe toute la nuit à pleurer. Ce sont des hommes hadou qui pleuraient, Mais écoute pourquoi il pleurait. Il va dire: ma dhannu ar-rajul yabitu wa hadha al-mal fi baytihi. Quelle est la situation? Qu'adviendra-t-il d'un homme qui ose passer ne serait-ce qu'une nuit avec toutes ses richesses chez lui? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a peur de rendre des comptes à cause de ses richesses. C'est trop pour moi. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Voilà pourquoi il pleure. Il pleure par crainte d'Allah. Chez nous aujourd'hui, pleurer, d'abord on ne pleure pas, parce que c'est une honte. Et ensuite, si vraiment on pleure, on ne va pas pleurer pour des choses comme celle-là. Et les prédécesseurs pieux, c'est pour ça qu'ils pleuraient. On raconte qu'un prédécesseur pieux, Rabi' ibn Khuthaym, radiallahu anhu, qui était un élève, l'élève du compagnon Abdullah ibn Mas'ud, pendant 20 ans il a étudié avec Abdullah ibn Mas'ud, Rabi' ibn Khuthaym, pendant les nuits, il priait et pleurait. Mais il essayait d'être discret, il ne veut pas qu'on l'entende. Le problème, c'est que sa sincérité et sa crainte d'Allah, elle était tellement forte que quand il pleurait, il n'arrivait pas à se retenir et il pleurait trop fort, à un tel point qu'il réveillait sa mère. Et un jour, sa mère, elle lui a dit: « Mon fils, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu as fait? Quel crime tu as commis pour pleurer comme ça? Tu peux me dire ce que tu veux, il ne faut pas commencer à me dire la crainte d'Allah, etc. Oui, on craint Allah, mais comment tu pleures? C'est sûr que tu as fait quelque chose de tellement grave que certes tu as la crainte d'Allah pour ce péché que tu as commis. Tu as tué quelqu'un peut-être. Je suis ta mère, tu peux tout me dire. Tu as tué quelqu'un. » Il continue à pleurer, il dit à sa mère: « Oui, mère, j'ai tué. » Et sa mère va lui dire: « Mais arrête de te faire du mal comme ça. Si tu as tué quelqu'un, dis-moi c'est qui, je vais aller les voir. Et je vais leur raconter comment tu regrettes, comment tu pleures toutes les nuits. Et ils te pardonneront. Dis-moi qui. Tu as tué qui ?» Et il va répondre, radiyallahu an, « Qataltu nafsi. » J'ai tué mon âme. Un compagnon comme lui, il dit, un prédécesseur pieux comme lui, il dit: « J'ai tué mon âme. » Vous savez c'est qui Rabi' ibn Khuthaym? Rabi' ibn Khuthaym, c'est quelqu'un qui ne levait jamais les yeux au ciel. Quand on lui demandait pourquoi, il disait: « Pour deux raisons. J'ai honte de lever mes yeux vers Allah Azza wa Jal. » Il baissait tout le temps le regard. Et la deuxième raison, c'est parce que je crains Allah. D'ailleurs, quand il allait chez son professeur, le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, et qu'il frappa à sa porte, la servante d'Abdullah ibn Mas'ud, elle ouvrait la porte. Et lui, il était comme ça, il baissait le regard. Il levait jamais le regard. Et elle, la servante, elle pensait, elle le connaissait. C'est l'élève d'Abdullah ibn Mas'ud. Mais elle était persuadée, convaincue, que l'élève d'Abdullah ibn Mas'ud, Rabi' ibn Khuthaym, il était aveugle. Alors elle lui disait: « Sadiqouk al-a'ma bil-bab. » Elle disait à Abdullah ibn Mas'ud: « Ton ami l'aveugle, il est à la porte. » Elle était persuadée qu'il était aveugle. Il la corrigeait par Abdullah ibn Mas'ud. Et il allait l'accueillir, il lui disait en l'accueillant, Abdullah ibn Mas'ud: « Wabashir al-mukhbitin. » C'est un verset qui est dans le surat al-Hajj. « Wabashir al-mukhbitin. » Mukhbitin, c'est ceux qui ont le cœur, selon certaines exégèses, apaisés par la tranquillité du rappel d'Allah, ou selon d'autres exégèses, et c'est ce sens-là qui a été utilisé par Abdullah ibn Mas'ud ici, ce sont ceux qui craignent Allah et qui ont honte d'Allah Azza wa Jal. Et donc il lui disait « Wabashir al-mukhbitin » et annonce la bonne nouvelle à ceux qui craignent Allah, à ceux qui ont honte devant Allah Azza wa Jal. Parce qu'il baissait tout le temps le regard par crainte d'Allah et par honte devant Allah Azza wa Jal. Naam. Rabi' ibn Khuthaym, quand il priait, il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Il n'a conscience de rien à part de sa prière. À un tel point qu'une fois, il était en voyage avec son servant. Son servant, il est parti faire ses besoins. Lui, il s'est mis à prier. Le cheval était à côté. Un bandit, il a profité de la situation. Il est venu voler le cheval. Et le cheval, il était là devant. Quelqu'un, il vient, il prend ton cheval pendant ta prière. Qu'est-ce que tu fais? Ben évidemment, tu sors de ta prière. Ah, Jehenanta, qu'est-ce que tu fais? Oh. Mais lui n'est pas sorti de la prière, pas parce qu'il s'est dit « j'ai pas le droit de sortir de ma prière », parce qu'il était dans sa prière, il n'a rien remarqué. Et quand il termine la prière, il se rend compte que le cheval n'est plus là alors qu'il était là devant lui. Et quand son servant revient, il dit « il est où le cheval ?» Il dit « je sais pas, j'ai prié et après je pense qu'on nous l'a volé. » « Mais comment ça on nous l'a volé? Il était là, tu ne l'as pas remarqué ?» Et il lui a répondu: « Moi quand je prie, je ne remarque rien si ce n'est ce qui se passe dans ma prière. Radiyallahu anhu. Naam. Pourquoi je suis parti chez Rabi' ibn Khuzaym? C'était par rapport à Talha ibn Ubaidillah, c'est ça? Moi, je me suis pris, je ne sais pas si vous me suivez, vous. Naam. Talha ibn Ubaidillah, voilà, par rapport au fait que pourquoi ces gens-là, ils pleuraient. Talha ibn Ubaidillah va pleurer cette nuit-là pour ses richesses qui lui ont envoyées du Yémen. Et donc, il va dire à sa femme, elle va dire, pourquoi tu pleures? Elle va lui dire, il va lui dire, je pleure parce que comment, qu'adviendra-t-il d'un homme qui passe ne serait-ce qu'une nuit avec toutes ses richesses dans sa maison? Elle va lui dire, fais ce que tu as l'habitude de faire. C'est-à-dire, elle va lui dire, bah, prends ces richesses et partage-les aux muhajiroun et aux ansar, aux compagnons émigrants de la Mecque et aux compagnons médinois. Et le lendemain matin, il va partager les richesses. Et il partage, et sa femme, elle regarde. Il partage. C'est vrai qu'elle lui a dit de partager, mais il faut quand même laisser un peu pour la maison. Nous aussi, on a besoin. Et donc, quand elle va voir qu'il restera presque plus rien, alors qu'il était encore sur le point de donner ça aussi, elle va lui dire, et pour nous? À ce moment-là, il va dire, bah, ça, ce sera pour nous, alors, Inch'Allah. Mais sinon, lui était parti pour tout donner. Naam. Talha ibn Ubaidillah, radiyallahu anhu, va mourir en martyr dans la bataille de l'Jamal. La bataille de l'Jamal, c'est une bataille qui va avoir lieu après l'assassinat de Uthman, radiyallahu anhu, quand il y aura la fitna, les troubles entre les compagnons, radiyallahu anhum. Talha ibn Ubaidillah va être tué, il va mourir en martyr dans cette bataille, la bataille de l'Jamal, Ma'rakatul Jamal. Donc lui, c'est un des deux compagnons qui a été envoyé en éclaireur. Le deuxième compagnon, c'est Sa'id ibn Zayd. Sa'id ibn Zayd, pour parler de Sa'id ibn Zayd, on est obligé d'abord de parler de son père. Pourtant, son père, il est mort avant la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, tenez-vous bien, on a des hadiths qui nous disent qu'on a le droit de faire des invocations pour cet homme, le père de Sa'id ibn Zayd, qui est mort pendant la Jahiliya. On a le droit de lui demander le pardon et la miséricorde d'Allah pour lui. Pourquoi? Le père de Sa'id ibn Zayd, c'était Zayd ibn Amr ibn Nawfal, et il faisait partie à cette époque-là des rares personnes qu'on appelait al-Hanifiyoun, ceux qui suivaient à la lettre la religion du prophète Ibrahim, alayhi salam, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans l'association Allah Azza wa Jal, ils n'adoraient pas les idoles, etc. Zayd ibn Amr ibn Nawfal, le père de ce compagnon, il va refuser, en utilisant sa raison, d'adopter les rites des idolâtres. Il ne se prosternera devant aucune idole. Il n'adorera aucune idole. Et même à un tel point, il ne mangera pas la viande qui a été égorgée au nom des idoles. Un jour, on va lui présenter de la viande et il va dire « Ana la akulu mimma tadbahuna ala ansabikum. » Je ne mange pas de ce que vous avez égorgé sur vos idoles. Ils vont lui dire pourquoi. Regardez, yani al-fitna, l'intelligence. Il va dire, c'est une chèvre à la base, qui a été créée par Allah. Vous croyez tous en Allah et vous savez que ce ne sont pas les idoles qui ont créé cette chèvre, c'est Allah. Vous êtes d'accord avec moi? Ils vont dire oui. Qui est-ce qui a abreuvé cette chèvre? C'est Allah en faisant tomber la pluie. Qui est-ce qui lui a donné de la végétation? C'est Allah en faisant pousser cette végétation. Ou ce sont les idoles? Corrigez-moi si je me trompe. Ils vont dire non, c'est Allah. Ils ne croient en Allah, les idolâtres, sauf qu'ils lui associent des idoles. Il va dire, et donc après tout ça, moi je vais l'égorger, cette chèvre qui a été égorgée, qui a été créée par Allah, nourrie par Allah, abreuvée par Allah, je vais l'égorger au nom d'une idole autre qu'Allah. C'est pas possible. Et donc je n'en mange pas. Il faisait aussi partie des rares personnes qui refusaient qu'on tue les fillettes. Dans la Jahiliya, ils tuaient leurs filles. Et quand ils voyaient quelqu'un qu'ils connaissaient qui voulait tuer sa fille qui venait de naître, parce que pour eux c'était une honte d'avoir une fille et c'était juste une bouche de plus à nourrir qui n'allait rien rapporter dans la famille et dans la tribu, ils préféraient les enterrer vivantes. Donc il allait voir cet homme et il lui disait « Ne tue pas ta fille. » Si la seule chose qui te fait peur, c'est sa charge, je vais la prendre en charge. C'est moi qui vais la nourrir, qui vais la vêtir, qui vais jusqu'à ce qu'elle grandisse. Et il s'occupait de la nourrir, de la vêtir jusqu'à ce qu'elle grandisse. Et ensuite, quand elle avait atteint l'âge adulte, il revenait voir le père et il disait « Soit tu récupères ta fille, Yani moi, je l'ai amenée à l'âge adulte pour la marier, etc. Et qu'elle fasse sa vie. Soit même si encore maintenant, tu n'es toujours pas d'accord pour récupérer ta fille, je la garde. Naam. Un jour, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, et Saïd ibn Zayd, donc le fils de cet homme, avant ça, cet homme, Zayd ibn Amr ibn Nawfal, il va décider de partir de la Mecque pour essayer d'aller à la recherche de la bonne religion. Et donc il va aller chez les rabbins juifs, il va aller chez les moines chrétiens, etc. Et tous, il découvrira que tous disent que l'origine de leur religion, au final, c'est le prophète Ibrahim alayhi salam. Et donc c'est pour cela qu'il reviendra à la Mecque en faisant partie de ces personnes qu'on appelle Hanifiyoun ou l'Ahnaf, ceux qui suivent la religion d'Ibrahim. Et il dira toujours au Quraysh, Ya ma'ashara Quraysh, Laysa ahadun minkum ala dini Ibrahim ghayri. Il n'y a personne d'entre vous qui est sur la religion d'Ibrahim, alayhi salam, si ce n'est moi. Puisque les Quraysh, à l'époque, ils revendiquaient d'être dans la religion d'Ibrahim. Sauf qu'ils avaient innové, ils avaient ramené des idoles, etc. Et donc il leur dira, le seul qui est dans la religion d'Ibrahim, c'est moi. Ala kulli hal, il va mourir en voyage. Quand il va revenir d'un voyage, il va mourir, Zayd ibn Amr ibn Nawfal. Et un jour, son fils, celui dont on parle, Saïd ibn Zayd et Omar ibn Khattab, vont demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'en est-il de mon père, Zayd ibn Amr ibn Nawfal? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre, Innahu yub'athu yawm al-qiyamati ummatan wahida. Il va être ressuscité le jour de la résurrection. Il représentera une seule communauté, c'est-à-dire sa communauté à lui. Il y a des gens qui vont représenter, comme certains prophètes, ils vont arriver, il n'y a personne qui les a suivis, ils seront tout seuls. Et c'est en lui-même, il y a une umma, il y a une nation. Eh bien, ainsi sera Zayd ibn Amr ibn Nawfal. Wallahu a'lam. Son fils, Saïd ibn Zayd, qui a été envoyé en éclaireur par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie des 10 premiers au paradis, comme Talha ibn Ubaydillah. Il va se convertir à l'islam avec son épouse. Et son épouse, c'est Fatima bint al-Khattab, la sœur de Omar ibn al-Khattab. D'ailleurs, ils sont cousins, lui et Omar ibn al-Khattab, ils sont cousins. On sait aussi, dans des hadiths authentiques, en particulier authentifiés par le Bukhari, qu'il va être persécuté après sa conversion. Et parmi ses persécuteurs, il y aura son cousin et son beau-frère, Omar ibn al-Khattab. Et ensuite, il sera obligé de cacher sa conversion, jusqu'à ce qu'il soit lui-même la cause de la conversion d'Omar ibn al-Khattab. On avait raconté déjà la cause de la conversion d'Omar ibn al-Khattab lorsqu'il va aller chez sa sœur Fatima, donc l'épouse de Saad ibn Zayd. Parce qu'on va lui dire qu'ils sont toujours musulmans, même s'ils te disent qu'ils ne le sont plus, ils sont toujours musulmans, ils cachent leur islam et il va trouver là-bas quelqu'un qui leur faisait réciter le Coran, Al-Muhim. Il va même frapper ce jour-là Saïd ibn Zayd et sa sœur Fatima ibn Khattab et finalement il va se convertir à l'islam. Saïd ibn Zayd, radiyallahu anhu, c'est un compagnon après la mort du prophète, qui va vivre pendant la vie du prophète, il va assister à toutes les batailles, toutes les batailles du prophète, il va être avec lui à ses côtés. Sauf une seule, celle dont on va parler bientôt, celle de Badr. Pourquoi il ne sera pas avec le prophète dans cette bataille? Parce que le prophète va lui donner une mission encore aussi importante que celle de participer à la bataille de Badr. Comme on a dit, il l'a envoyé en éclaireur pour surveiller le retour. Et ensuite, pendant la bataille de Badr, le professeur Anselme, quand il va faire la bataille de Badr, comme on va l'expliquer, la bataille de Badr ne sera pas contre la caravane. Elle sera contre une armée d'un millier d'hommes qui va être envoyée par la Mecque, comme on va le voir plus tard, pour protéger la caravane. Et finalement, la caravane, elle va réussir à faire un détour pour échapper à cette bataille, alors qu'ils ont rendez-vous avec l'armée des 1 000 hommes. Lui, le professeur Anselme, envoie Saïd ibn Zayd surveiller de loin cette caravane. Malgré la bataille, il lui envoie Saïd ibn Zayd surveiller de loin cette caravane, voir quel chemin elle prend, etc. Donc c'est pour cela qu'il ne participera pas à la bataille, mais le professeur Sam lui donnera, comme on le verra, sa part du butin, comme n'importe quel compagnon qui a participé à la bataille, parce qu'il considérera avec cette mission que c'est comme s'il avait participé à la bataille de Badr. Saïd ibn Zayd, radiyallahu anhu, il va lui aussi vivre la période des troubles entre les compagnons, mais il sera quelqu'un qui essaiera toujours de rappeler à l'ordre tous ceux qui s'égarent quand ils parlent mal des compagnons après l'assassinat de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Un tel point qu'on raconte qu'un jour il est à Al-Kufa, à la ville, une ville dans le sud de l'Irak, Al-Kufa, et il rend visite à un homme qui est imam dans une mosquée, dans la grande mosquée de Al-Kufa, et cet homme le reçoit. Et pendant qu'il reçoit Saïd ibn Zayd, il y a un homme qui rentre dans la mosquée et qui se met à insulter. Il insulte quelqu'un sans qu'on sache de qui il parle quand il insulte. Saïd ibn Zayd dit, mais il insulte qui? Et l'homme va lui dire, il insulte Ali ibn Abi Talib. C'est l'époque où les gens ils commencent à se permettre d'insulter des compagnons. Il insulte Ali ibn Abi Talib. Et là, il sera choqué, il va dire, et toi, pour toi c'est normal, tu laisses faire? Tu laisses des gens rentrer dans ta mosquée et insulter un compagnon comme Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Et c'est justement un des rapporteurs du hadith des 10 promis au paradis. Il va dire, je prends à témoin Allah que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, un tel est au paradis, un tel est au paradis. Il va citer les 10 personnes, dont Ali ibn Abi Talib, et lui aussi fait partie des gens du paradis. Mais il ne va pas oser le dire, c'est comme s'il avait de la prétention. Et il va dire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va même dire qu'une dixième personne est au paradis. Et ils vont dire, mais qui est-il? Quelqu'un, qui est-il? Ils vont insister, ils vont dire, puisque vous insistez, je ne voulais pas le dire, mais il a aussi cité mon nom, parmi les 10 personnes promises au paradis. Naam. Saïd ibn Zayd, c'est quelqu'un de tellement important que lorsque le calife Muawiya ibn Abi Sufyan va envoyer Marwan ibn al-Hakam à Médine en tant que gouverneur, il va lui demander... Lorsque il y a toutes ces fitnas, Muawiya ibn Abi Sufyan, il va décider à l'avance de choisir son successeur, qui sera son fils, Yazid ibn Muawiya. Et il va demander à l'avance à tous ses gouverneurs de faire prendre serment d'allégeance à toute la population musulmane, qu'ils promettent et qu'ils s'engagent, pour justement qu'au moment de sa mort, il n'y ait pas de fitna, même si on peut être en désaccord avec cette décision, mais en tout cas, lui, c'était son intention, pour pas qu'il y ait de troubles au moment de sa mort, que tous les gens prêtent serment d'allégeance à l'avance pour son fils Yazid. Et quand Marwan ibn al-Hakam va devoir le faire à Médine, il va retarder la chose, il ne le fait pas. Et les gens vont lui dire, pourquoi tu n'obéis pas à l'ordre qui t'a été envoyé par le calife? Il a dit, parce que Saïd ibn Zayd est en voyage. Et j'attends qu'il revienne. لِأَنَّهُ سَيِّدُ أَهْلِ الْبَلَدِ. Parce qu'il est le maître des gens d'ici. Et quand il reviendra, si je lui demande à lui de prêter serment d'allégeance, personne ne se posera de questions, tout le monde le suivra. Mais s'il ne le fait pas, si on le fait en son absence, on a un risque de trouble et que certaines personnes refusent de le faire. Voilà comment il était vu, Saïd ibn Zayd. Un jour, et je termine là-dessus, Saïd ibn Zayd va être accusé à tort par une femme, à Médine, qu'il a son terrain à côté du terrain de cette femme. Et cette femme va aller voir Marwan ibn al-Hakam, qui est gouverneur de Médine, pour lui dire, il vient à chaque fois sur mon terrain, il fait nourrir ses bêtes dans mon terrain, il plante aussi sur mon terrain, il prend une partie de mon terrain. Il ne respecte pas la limite. Il vole ma terre. Et donc Marwan ibn al-Hakam, même si c'est un compagnon promis au paradis, il fait son travail. Avant, ils étaient comme ça, subhanallah. Et il convoque Saïd ibn Zayd pour qu'il se défende, pour qu'il se justifie. Est-ce que tu prends une partie de son terrain? Et Saïd ibn Zayd, il va dire, comment moi, je vais prendre une partie de son terrain, alors que moi, c'est moi qui ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, man akhadha shibran min al-ardi dhulman tawwiqa yawm al-qiyamati min al-aradin as-sab'a. C'est moi qui ai rapporté le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui prend un empan, shibr, juste cette taille-là, d'un un petit morceau de terre à quelqu'un, injustement, il lui prend juste ça, pas ce qu'elle est en train de dire, elle, des mètres carrés, juste ça, il lui prend, le professeur Hassan y a dit, le jour du jugement dernier, il sera écrasé, ligoté par les 7 couches terrestres, comme punition. Comment, moi qui ai pu rapporter ça, je peux lui prendre sa terre? Et la femme n'en démordra pas, donc ce sera parole contre parole. Elle dira, si, il prend ma terre, etc. Et comme elle n'en démordra pas, Saïd ibn Zayd va voir que c'est au final pas juste une femme qui se trompe, mais que c'est de la malhonnêteté. En fait, elle dit ça pour récupérer une partie de son terrain à lui, en fait. Et donc, il va lui dire, j'implore Allah azza wa jal in kunti kadhiba. si tu mens intentionnellement, j'implore Allah Azza wa Jal an yu'miya basaraki, qu'il te rende aveugle, wa an yaqtulaki bi ardiki, et qu'il te tue dans ta terre là pour laquelle tu es en train de nous rendre fou et pour laquelle tu es en train de nous accuser à tort, qu'il te tue dans cette terre. Et on raconte qu'elle va devenir aveugle et qu'elle va mourir d'une chute dans un puits dans son terrain. Et un adoua ahou mustajab. Parce que ses invocations ont été exaucées par Allah Azza wa Jal. Ala kulli hal, ce sont eux deux que le prophète sallam envoie au nord de Médine pour surveiller l'éventuel retour de la caravane d'Abu Soufyan. Et ils vont remarquer au début de Ramadan le retour de cette caravane. Et ils remarquent qu'elle est conduite par Abu Soufyan avec uniquement entre 30 et 40 hommes. Et qu'elle est composée de 1000 chameaux chargés en richesse, et ils font une estimation, donc de loin ils sont aussi, ils savent faire ça, et de loin ils font une estimation, ils estiment les richesses qu'il y a dans cette caravane à 50 000 dinars, 50 000 pièces d'or. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont faire comme ceux dans la bataille de Nakhla et prendre un risque, essayer d'aller attaquer cette caravane à eux deux, ou de voler une partie, de prendre une partie, puisque ce sont les richesses qui leur reviennent? Ce sont leurs richesses qui ont été vendues en Syrie et les bénéfices qui se sont faits. Ou alors ils vont prévenir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.